Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, cellules et pierres vivantes.
Je vous propose que nous fassions une lecture dans la lettre de Paul aux Corinthiens, première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Nous allons lire quelques lignes qui vont nous servir tout simplement de base et d'articulation à notre réflexion. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Que Dieu nous bénisse. Alors vous avez peut-être un peu imaginé ce dont nous allions parler ce matin. Hein ? On va parler d'unité. Ça vous va ? Bon, alors on y va. Paul, qui écrit cette lettre, parle avec la connaissance de son temps. Naturellement, le corps de Christ est comparé à ou au corps humain avec ses membres et ses organes, la place et l'utilité de chacun, le tout formant un ensemble harmonieux. Ça, c'est le génie créateur. Hein. Et c'est vrai que quelquefois on a des problèmes de santé avec notre corps, mais quand ça fonctionne, c'est bien. Hein. Ça marche bien et on peut bénir le Seigneur. Nous allons aborder un enseignement très figuratif, comme j'ai souvent l'habitude d'en donner, parce que je pense que je ne fais que suivre l'exemple de Jésus quand il a parlé avec des paraboles. Parce que c'est quelque chose qui frappe l'esprit, qui permet de mémoriser. Alors nous allons parler avec des images, et puis aussi des comparaisons, des rapprochements. Si Paul avait vécu à l'heure du microscope et de la microbiologie, c'est-à-dire dans notre temps, il aurait découvert avec émerveillement que le corps des hommes, le corps humain, est formé d'une multitude, d'une foule incalculable d'éléments vivants que l'on appelle cellules. Et bien sûr, transporté sur le corps de Christ, entendez par là l'Église ce que nous sommes les uns et les autres, eh bien, la traduction pourrait se faire par, selon ce que Pierre nous dit dans son épître, pierres vivantes. Des pierres vivantes. Et d'ailleurs, je relis ce texte, je signale ce texte. Il dit ceci, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous, construisez-vous pour former une maison, mais attendez, une maison spirituelle. » S'entend une maison spirituelle. Soit un corps. Les découvertes scientifiques modernes ont affiné la connaissance et le langage. Certainement que du temps de Paul, on devait, comme on l'a lu ce matin, appeler les choses comme on les voyait naturellement. Aujourd'hui, on a été beaucoup plus loin et on a donné naturellement, certainement une profondeur aux choses par la connaissance, par le développement, la science, etc. Hier, Paul utilisait le vocable « membre », « organe ». Aujourd'hui, on parle davantage de tissus cellulaires, de cellules, et l'analogie « corps-église » reste tout à fait compréhensible et on va se lancer à l'aventure. Je vous emmène faire un petit tour dans ce que Dieu a créé et que nous n'avons pas besoin d'aller chercher bien loin, il suffit tout simplement de se regarder et puis d'étudier un peu les choses de cette manière et vous allez voir que déjà un homme, bien longtemps avant Paul et encore plus longtemps avant nous, c'est David qui s'écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Est-ce que vous le croyez? Vous êtes regardé dans la glace ce matin. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que je suis beau? C'est David qui le dit. Une créature si merveilleuse, mais ce n'est pas pour lui qu'il le dit. Il le dit pour la gloire de Dieu. Il dira, mais tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Éclatons de louanges et d'adoration, mes frères et sœurs. C'est le moment, dans un culte. David, qui avait la sensibilité du poète et qui était poète, assurément, exalte le génie créateur de Dieu dans l'ouvrage le plus perfectionné qui soit, c'est-à-dire l'homme. Et on sait que dans le livre de la Genèse, l'homme est le couronnement de toute la création. C'est dommage, il a mal tourné. Mais néanmoins, à l'origine, ce que Dieu avait fait, c'était très bon. Je n'allais pas dire parfait, mais c'était très bon. Nous avons deux enseignements comparatifs afin de mieux saisir ce qu'est le corps de Christ, ce que nous représentons dans cette formation qui est la nôtre. L'Église vivante de Jésus-Christ, c'est une société humaine, mais avec une autre dimension naturellement. Le corps humain a ses merveilles, quand tout fonctionne bien naturellement, je le rappelle. L'Église a ses beautés. Je tiens à le signaler contre, peut-être par rapport à ceux qui sont toujours en train de maugréer, parce qu'il y a ceci et cela. Elle a ses secrets. Elle a ses merveilles incomparables, dignes de celui qui l'a créée. Et quand on critique, finalement, le corps de Christ, on critique le Seigneur. Parce que c'est lui qui s'en occupe du perfectionnement, de la régénération et de la sanctification. On tend à cela. Mais faisons attention, parce que là, on touche à l'œuvre de Dieu. Et peut-être même davantage que l'œuvre créatrice de Dieu, on touche parfois aussi à l'œuvre rédemptrice du Seigneur lorsqu'on choque la conscience de quelqu'un, de chrétien, et qu'on lui fait perdre son salut. Donc, l'un est physique, l'autre spirituel. Au siècle, qui est le nôtre, que je dirais peut-être abusivement la suprématie de l'homme sur le monde, de la technologie, des découvertes éblouissantes, des voyages interplanétaires, l'homme s'extasie de son environnement et passe à côté de lui-même sans s'étonner de la merveille des merveilles que l'on appelle la vie. On voit beaucoup de choses dans notre monde, mais on voit les choses tellement vite que finalement, on oublie celui qui est derrière, celui qui en est l'auteur, celui qui est le créateur et celui qui l'entretient. L'homme et son corps. C'est tout un programme. Son fonctionnement est assurément mystérieux. Quand on peut comparer que le cerveau humain, c'est un véritable ordinateur, mieux que l'ordinateur, que les organes que Dieu a mis, ce sont des usines, mais super perfectionnées. Que les mains, c'est un outil universel. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses avec les mains. L'homme est habile. Il y a l'artisan et puis il y a l'artiste. Et puis, il y a l'utilisation commune et de tous les jours. Les mains, c'est quelque chose de formidable. que si vous voulez comparer les nerfs à une centrale électrique, c'est pas la peine de mettre les doigts dans la prise. Hein. Et puis, qu'est-ce que je dirais encore? Qu'est-ce que je pourrais dire? Mais beaucoup de choses. Naturellement, je passe très vite parce que je veux arriver naturellement à la signification spirituelle. Tout le savoir humain et ses performances n'a jamais pu égaler les perfections de Dieu, les perfections divines et tout ce que l'homme sait faire, hein, même si c'est bien, ce ne sont que des copies, parfois même des caricatures. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et on ne va pas dénigrer non plus dans ce domaine. On n'est pas là pour cela. Alors, nous avons ce matin une invitation à observer l'activité cellulaire dans notre corps en considérant que chaque croyant est un composant du corps de Christ. Chacun d'entre nous, qui que nous soyons, nous faisons partie du corps. Nous appartenons à Jésus-Christ. Vous connaissez le principe, la repentance. Je le rappelle quand même parce que la nouvelle naissance, la conversion à Jésus-Christ, c'est cela. Alors, la vie de l'esprit, naturellement. Donc, nous sommes invités, eh bien, à découvrir tout cela, parce que nous sommes des pierres vivantes dans son œuvre. Nous ne sommes pas des pierres mortes, nous ne sommes pas des éléments morts, mais c'est vivant. Une cellule vivante, chacun d'entre nous, à l'échelle de l'Église universelle. Alors, imaginez-vous, hein. Aujourd'hui, nous sommes quelques-uns, quelques dizaines, mais dans notre région, dans notre pays, dans notre Europe, et puis autant dans l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord, vous avez des millions et des millions d'hommes et de femmes qui appartiennent à Jésus-Christ et qui forment naturellement son corps. Les cellules, et je fais une remarque, les cellules constituent des organes, et les organes et les membres, eux-mêmes constituant le corps. Et l'union de cet ensemble forme un tout que Dieu veut harmonieux. Je dis bien la volonté de Dieu, hein, qu'il y ait l'harmonie. La vie procède toujours d'une union, jamais du chaos et de l'anarchie. Alors là, il faut être convaincu de cela, que l'harmonie, ça vient de l'union, les uns avec les autres, et non de ce que quelquefois le monde nous montre, ce que quelquefois tristement et pitoyablement nous voyons dans l'Église. En tous les cas, l'harmonie est du côté de l'union et de cette communion avec Dieu, quoi qu'il en soit, de l'homme avec son Créateur. Dire quelques mots de la cellule. Le corps est composé de plusieurs milliards de cellules. Vous voyez, on n'est pas tout seul. Hein. La cellule est l'unité de base, comme le croyant l'est au sein de l'Église. Chacun d'entre nous. Nous avons été appelés pour être là, pour être mis dans un lieu, dans une situation particulière, mais chacun d'entre nous, nous constituons l'unité de base. Unité de base tant dans l'Église locale que dans l'Église universelle. Leur regroupement évoque une communauté. Nous sommes une communauté. Une vie associative, pour parler peut-être avec le langage finalement, que la loi nous demande, une vie associative. Le but, c'est participer à la vie de l'ensemble. Et nous devons être conscients, et les premières choses que nous comprenons lorsque nous nous convertissons à Jésus-Christ, c'est que nous lui appartenons, mais nous appartenons aussi à son corps. Et que, eh bien, dès lors, finalement, nous sommes là à œuvrer ensemble, dans la prière, dans les actions définies ensemble, à travers les réunions d'évangélisation, à travers les cultes, à travers eh bien, tout ce qui peut nous être donné de faire, d'adorer ensemble. On s'est réunis ce matin. Le culte est marqué particulièrement par une démarche d'adoration. Et les uns et les autres, chacun avec le timbre de sa voix, avec son vocabulaire, avec son expression, avec son vécu de la semaine ou avec son vécu de peut-être de très loin ou du présent, peu importe. Hein. Mais nous apportons tous notre pierre, notre contribution. Et je rappelle, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. J'introduis une notion importante dans le corps de Christ, comme dans, eh bien, la constitution cellulaire du corps. j'introduis la diversité. La diversité. Dieu est le Dieu de la variété. Je tiens à le dire, parce que quelquefois, on essaie de normaliser en fonction de certaines cultures ou certaines faits historiques, de toutes sortes de choses. Dieu est le Dieu de la diversité. Dieu a inventé la multiplicité. La multiplication aussi, si vous voulez, si vous en souvenez. Mais la multiplicité, et l'homme, voulant peut-être prendre contre-pied à l'action de Dieu, à la création de Dieu, lui a inventé la standardisation. Le contraire. On standardise, on réduit, on minimalise, on met en conditionnement, et puis voilà comment les choses se présentent. Jugeons avec pièce à l'appui. Quand on regarde les uniformes corporatifs des hommes, on s'aperçoit que le facteur a quoi que de moins en moins maintenant, ça c'est... hein? Les pompiers, les soldats, les boulangers, et puis ceci et cela, il n'y a que les pasteurs qui échappent à la règle. Parce que moi, j'ai pas mis ma robe aujourd'hui. Hein? Et vous n'êtes pas prêts de me l'avoir. Hein? En robe. Mais toujours est-il que ça normalise les choses. On se dit, voilà, ce monsieur, vous savez reconnaître quand même, eh bien, un pompier d'un gendarme. Et quand ils sont en action, quand ils sont en fonction, ils ont leur uniforme. Hein? C'est clair. Donc ça, c'est la standardisation. Hein, c'est le régime, en quelque sorte. C'est comme ça. Et on sait, on reconnaît, etc., etc. Dieu a créé, et ça c'est merveilleux, des milliers et des milliers de variétés, tant en zoologie, tant dans le monde végétal, et même dans les races humaines, dans les espèces. Et ça c'est extraordinaire. Pourquoi Dieu aurait pu faire, à partir d'Adam... Eh bien, il aurait pu faire un clone. Il aurait pu faire des clones. Alors nous aurions tous la même chose. Alors comment on se reconnaîtrait? Vous vous rendez compte, on diffère de tout. Même au son de la voix, même à la couleur de nos cheveux, même à notre manière d'être, notre parler naturellement. Hein. Vous avez vu toutes les langues qu'il y a sur Terre? Enfin, vous avez vu, vous avez entendu. Voilà. Hein, donc ça, c'est quelque chose de formidable et de réjouissant que Dieu est le Dieu de la diversité. Nous devons nous en imprégner. Quand je lis dans Genèse, il nous est dit que Dieu créa selon les ou leurs espèces. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire lorsqu'on entend des botanistes ou d'autres disciplines observant la nature, on s'aperçoit qu'on nous dit qu'on perd certainement des espèces qui disparaissent. Mais il y en a tant d'autres que nous ne connaissons même pas. Alors on va fouiller dans le fond des océans, on va dans les abysses, et puis on dit, ben voilà, on a découvert ceci et cela, c'est quelque chose d'inconnu. Et... alors, des milliers de variétés. Et je pense que nous devons aussi nous imprégner de cette pensée que nous avons un Dieu qui, eh bien, n'a pas fait les choses seulement en une seule couleur, de multiples couleurs. Regardez les poissons, regardez les papillons. Je ne sais pas si vous avez regardé quelquefois des reportages hein, sur le fond des océans, c'est formidable, il y en a très très souvent. Hein. Et on se dit, mais c'est merveilleux, c'est formidable, les oiseaux, et tout. Soyez observateurs, hein, et vous allez découvrir que notre Dieu, il est grand. Hein. Alors on va nous dire que c'est un processus très lent d'évolution, etc., etc. Auparavant, paraît-il que j'étais dans un arbre, hein, et j'en suis descendu. Dans le corps... il y a diversité de cellules, leur place, leur fonction, leur forme ne sont pas sans raison. Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu d'harmonie. Elles correspondent à un but précis. Il y a un plan d'organisation du fonctionnement du corps. Et il y a un plan d'organisation dans le fonctionnement de l'Église. Ce n'est pas le pasteur qui gère. Moi, je prends mes ordres auprès de mon général. Parce qu'on peut dire général, général en tout, parfait, saint, connaît tout. Il y a les cellules sanguines. Elles ont une fonction bien précise. Elles ont un endroit bien précis non plus, aussi. L'apport d'oxygène aux autres cellules. Il y a également... en effet, elles ont aussi comme fonctions, elles font office d'usine de transformation, la nourriture. L'alimentation, naturellement. Et c'est une entreprise de transport, le sang qui circule dans notre corps. Il y a les globules blancs, en parlant de cette dimension. Ce sont les soldats du corps. C'est le ministère de la Défense. Voilà. Hein ? Et quelquefois, quand il y a une attaque virale, c'est le ministère de la guerre. Et je peux vous dire qu'il y a une mobilisation à ce moment-là. Elle est immédiate. Hein. Il y a les cellules musculaires, naturellement. Ce sont des cellules qui absorbent beaucoup de nourriture. Mais elles procurent la force. Elles procurent l'énergie. Elles procurent la vitalité. Il y a les cellules graisseuses. Alors, on est plus ou moins... Enfin, je ne veux pas trop rentrer dans le... Mais c'est une cellule de, ce sont des cellules de protection, de réserve. Elles servent de magasin. On en reparlera tout à l'heure parce que, partant de disette, c'est important quand même d'avoir un petit peu d'embonpoint. Il y a les cellules osseuses. Robustesse et rigidité. Robustesse et rigidité, mais souplesse aussi. Parce qu'autrement, vous savez que nous sommes des vertébrés. Et heureusement, parce qu'autrement, imaginez-vous, hein, pas besoin de mettre des chaises, hein, tous par terre. Ben oui, évidemment. Il y a les cellules de la peau, qui est un vêtement. Quelquefois, au bout d'un certain temps, qui se ride, hein, ça c'est sûr. Mais il y a une beauté quand même. Il y a la forme, la beauté, la sensibilité. Vous voyez, si vous voulez avoir un peu de sensibilité, vous savez, on a, c'est toujours sur le dessus de la main, là, quelque part. Puis il y a des endroits où il y a une grande sensibilité. Ça, ce sont les cellules de la peau. Elles donnent des informations au cerveau. Il y a les cellules nerveuses. Ça, c'est la centrale de communication. C'est très rapide, parce que je n'ai pas besoin de réfléchir quand je dois avoir une action immédiate. C'est automatique. Mon cerveau commande et ma main agit. Ça ne prend pas de temps. Ça va encore plus vite que l'ordinateur. Quelquefois, moi, il bug, mon ordinateur. Il n'arrive pas à avancer. Hein. Mais alors là, dans la tête, ça va très vite. Hein. C'est peut-être parfois ce qui nous énerve. L'Église ou corps de Christ est formée d'un réseau d'individus, local et universel, aussi varié que les cellules du corps humain. Le royaume de Dieu ici-bas se compose d'une multitude de croyants, dissemblables au possible. Eh oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est tellement différents les uns des autres. Il y en a qui ont des cheveux, il y en a qui en ont... moins. Il y a des gens qui ont eh bien, une couleur qui n'est peut-être pas qui est différente des autres. Enfin bon, la couleur est quand même assez restreinte. Hein. Il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de violet, il n'y a pas de... Mais quand même, quand même. Enfin, quand on est violet, c'est mauvais signe. Hein. C'est une mosaïque d'éléments disparates et dépareillés que l'on a du mal à croire qu'elle forme un tout. Et Dieu a voulu que ça soit comme ça. Alors l'homme a dit, on standardise. Tout le monde derrière le chef et personne ne bouge. Pas un cheveu qui dépasse. Ah oui, mais c'est ça. Hein. Et même dans le domaine religieux, les habits, la liturgie, et puis ceci, et puis cela, et puis ça ne peut pas être autrement, c'est figé. Ça ne bouge pas. Alors que l'Église de Christ, elle est vivante. Elle est de toutes les couleurs. Elle a des expressions dans les formes. Le fond ne bouge pas, et je tiens à le dire, hein, ne soyez pas, n'allez pas penser que je suis hérétique. Hein. Le fond ne bouge pas. Mais en tous les cas, dans la forme, le Seigneur est merveilleux. Dans les formes. Alors le problème, c'est qu'il faut que les formes soient spirituelles. On est bien d'accord. Mais il faut que nous, on soit spirituels pour faire attention de la manière dont nous voyons les choses et dont nous jugeons les choses. Parce qu'il y a des choses qui viennent authentiquement du Seigneur, mais que nous croyons qu'elles viennent finalement d'une fantaisie charnelle ou autre chose. Regardons de plus près. Faisons attention à cela. Parce que c'est vraiment le mal du corps de Christ. Donc, un corps, une unité. Un corps, une unité. Pourtant, un point commun, et là nous arrivons au fond, c'est l'appartenance au chef, à celui qui est la tête, c'est ce que nous dit Paul dans Éphésiens, la tête de l'Église. Le chef, il est l'époux de l'épouse, Jésus-Christ. Le fondement de notre unité, au sein de l'Église n'est pas notre similitude. C'est notre diversité. À en croire que chacun a un vêtement qui le caractérise ce matin selon vos goûts, selon certainement l'air du temps. Et vous êtes venu, et c'est aussi une manifestation de votre personnalité. Elle est à vous. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, je vous ai fait passer le message que tout le monde doit être habillé pareil. Imaginez-vous. Hein. Vous venez au culte que si vous êtes habillé pareil. Bon, écoutez. Et que pour vraiment vivre un bon culte, nous devons être tous pareils. Nous sommes tous pareils, dans un même corps, dans un même cœur, dans un même esprit, une même pensée, dans une même foi, dans un même Seigneur, mais sur le plan spirituel. Alors, le fondement de notre unité, c'est la diversité. Alors Jésus nous le rappelle, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ». Vous vous souvenez de ça? Mais c'est moi qui vous ai choisi. Eh oui. Mais non seulement je vous ai choisi, mais je vous ai établi. Pour que vous portiez du fruit. Attention, ce n'est pas pour une démonstration de ceci et cela, mais pour que vous portiez du fruit. Et les fruits que nous allons justement pouvoir restituer dans notre communion avec le Seigneur, c'est notre union avec Jésus-Christ. Et ce qu'il est, je veux être. Je suis à sa lumière qui m'éclaire et je suis aussi un agent de réfraction ou de réflexion de ce qu'il est. Pourquoi? Jésus peut nous dire, tout simplement, je vous ai choisi, parce que vous êtes différents. Et je me réjouis de voir ici, ailleurs, partout où on passe, dans les églises et tout ça, qu'il y a quelque chose qui nous unit, c'est parce que nous avons notre foi en Jésus-Christ, notre salut est en Jésus-Christ. Alors, les expressions, j'en ai vu quelques différentes formes, ça c'est sûr. Demandez aux missionnaires qui font le tour du monde, vous allez voir un peu. C'est assez particulier. Mais il y a quelque chose, c'est qu'on voit des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur, dont la vie est en Jésus-Christ, elle est profonde. Dans la manifestation qu'il a leur, dans la culture qu'il a leur, mais ils sont différents. Et Dieu se glorifie. Le choix de Dieu dans l'histoire biblique est parfois surprenant. Et quand on voit que, et nous n'aurions pas fait, hein, quand on voit qu'il va chercher un Jacob tortueux, un Moïse irascible dans les premières années de sa vie, colérique jusqu'à devenir meurtrier. Quand on voit un prophète comme Jonas, je ne sais pas s'il était breton, mais oh, excusez-moi, tête de granit, hein. Quand on voit un érudit choisi, un Paul, avec une grande humilité pour enseigner la science et les merveilles de Dieu, universitaire. Jésus fait le choix de pauvres pécheurs, qu'il prend dans son filet à lui, sur les bords d'une contrée complètement déshéritée, la Galilée, quoique ce n'était pas aussi déshérité qu'on le pense, en tous les cas qu'il n'avait pas trop d'instruction, tel que Pierre et Jean, puisque dans le livre des Actes, il nous en dit « Mais comment se fait-il que ces hommes sans instruction prêchent l'Évangile ?» Bon. Quand on voit un médecin, comme Luc, il est médecin, un fonctionnaire comme Matthieu, qui enlève son crayon de son oreille et qui dit maintenant « Je change de vie !» Un Éthiopien, alors tout noir, mais ministre, ministre des Finances, une Lydie, une marchande. Et puis, autant de différences culturelles, de mentalité, de race et de couleur, et tout le monde se met à la suite du maître. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Et même ce que nous sommes, les uns et les autres, quand on raconte chacun notre histoire, c'est quelque chose de fabuleux et de merveilleux. Vous ne trouvez pas? Oui, formidable. L'Église première, l'Église primitive, a été formée dans la variété. La preuve, nous l'avons dans Actes chapitre 2, entre le verset 8 et 11, quand on voit que le jour de la Pentecôte, il nous est dit qu'il y avait une multitude d'hommes, de femmes qui étaient là et qui entendaient la voix de l'Esprit. Le souffle de l'Esprit. Et ils se diront, mais comment les entendons-nous parler dans nos langues maternelles? Et il nous est donné l'énoncé de cette société d'alors, de ce moment unique, formidable, où il y a des gens de toute race, de toutes conditions qui sont là et qui vont devenir les premières pierres de l'Église primitive. J'en arrive maintenant à la complémentarité. On a parlé de la variété, de la diversité, maintenant c'est la complémentarité. Je prends un exemple facile, c'est tout simplement tableau d'un artiste, d'un maître. Une couleur isolée sur une toile, peut-être Froebel en elle-même. Je prends un beau rouge, je le mets sur la toile, ouais, c'est beau. Je suis un artiste. Cependant, c'est en l'associant, en l'étalant, avec tout le talent, tout l'art, parmi d'autres couleurs opposées ou complémentaires, que le tableau va tirer à ce moment-là, ou cette couleur première, va tirer sa richesse de celle qui l'entoure et produira un effet d'ensemble harmonieux. Rembrandt, Gauguin, et puis tous ces hommes qui ont traversé l'histoire et qui ont peint, qui ont dépeint la vie, qui ont donné eh bien, le reflet de ce qu'était le monde d'avant, comme aujourd'hui le monde d'aujourd'hui, on s'y retrouve un petit peu moins aujourd'hui, avec les formes artistiques picturales. Mais toujours est-il que, on le sait, et c'est vrai que c'est beau de voir un tableau. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que ça nous fait pénétrer aussi dans certaines périodes, certaines histoires, la vie des gens. Et je trouve que c'est magnifique. Et il faut du talent pour cela. Tout le monde ne s'improvise pas. Alors, on s'aperçoit que ça donne un ensemble harmonieux. C'est une association, je parle des couleurs, qui révèle le talent, l'art. Parce que moi, je crois que Dieu a donné des dons aux hommes. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne les utilise pas toujours pour la gloire de Dieu. Mais Dieu a donné des talents. Et dans l'Église, il y a des talents. Il y a des dons. Il y a des choses formidables qui sont à l'état de sommeil. Et c'est bien dommage. Oui, parce que il y a quelque chose. Moi, je le sais. Mais il faut faire attention à tellement de choses. À la fois, souvent, pour la timidité de la personne qui a du mal à s'affranchir de certaines choses. Et puis quelquefois, à partir du moment où ça sort un peu des normes, eh bien on va commencer à regarder en disant « Oh oui, mais c'est charnel, c'est humain, c'est orgueilleux. » Alors à ce moment-là, on ne fait rien. Voilà. C'est tout. On ne fait rien. Vous avez remarqué les prédicateurs comme on est différents les uns des autres? Eh oui. Et moi, je pense que c'est ce qui fait la richesse de l'Église. Sur le même texte, vous avez 10 prédicateurs, il n'y en a pas un seul qui prêchera la même chose. Enfin, dans le fond, oui. Dans la forme. Vous comprenez. Hein? Et je dis que c'est triste que même dans la formation des jeunes pasteurs, on normalise. Et on dit, voilà, bien, c'est comme ça. On reconnaît, hein. On sait qu'il était avec tel formateur, tel maître de stage, etc., etc., parce qu'il a pris les accents, il a pris les... Moi, en tous les cas, je ne veux pas ça. Une personnalité doit se développer sous le regard de Dieu. Elle doit pousser avec la grâce de Dieu et on est tous uniques. Et je crois que les particularités eh bien, doivent être mises en valeur. Et Dieu se glorifiera parce que justement, c'est le Dieu de la variété et de la diversité. Que Dieu nous bénisse. Ben non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est le meilleur moyen pour qu'une église meure. Les églises, alors à ce moment-là, quand elles sont moribondes de cette affaire, elles n'appartiennent plus à Jésus-Christ. Elles appartiennent à un fondateur, elles appartiennent à un prophète, elles appartiennent à un modèle que l'on a mis. Alors on va finir par être canonisés. Alors surtout pas moi. Hein. Je vous en prie, n'allez pas faire la demande au Vatican. Donc, complémentarité. Les cellules du cerveau actionnent les cellules musculaires, la volonté et l'action. Ce qui se passe là, eh bien, va faire marcher ma main. Mes yeux vont stopper la marche devant un obstacle. Et je n'ai pas besoin de me dire, voilà, il y a un trou dans la route, je réfléchis 5 minutes, qu'est-ce que je fais? Je passe à droite, je passe à gauche, ou je saute par-dessus. C'est immédiat, c'est spontané, il y a danger, mon cerveau va me le dire parce que c'est mes yeux qui l'ont vu, et lui, les yeux vont commander au cerveau de faire ce qu'il faut faire à ce moment-là. Ça s'appelle les réflexes. Dieu nous enseigne que les différences peuvent devenir convergence et harmonie. L'objectif, c'est l'ensemble. C'est toujours l'ensemble. L'apôtre Paul, quand il parle des dons spirituels, il dit toujours que c'est pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas pour la gloriole de celui qui a un don spirituel. La gloriole de dire, eh bien voilà, moi j'apporte des prophéties tous les dimanches. Ou ceci et cela. Alors c'est malheureux si vous apportez, et s'il arrive que vous apportiez des prophéties tous les dimanches, le problème, ce n'est pas seulement votre problème, c'est ceux aussi des autres qui peut-être ont des dons et ne veulent pas les donner. Alors après on dit, ah oui, il a tombé dans l'orgueil et tout ça, mais on est quand même responsables les uns les autres. Si on avait apporté, finalement, comme ça, il y aurait eu la complémentarité. Verset 20, il y a plusieurs membres et un seul corps, et un tout formé de plusieurs. La diversité est en plein accord avec l'unité. Quand la règle fondamentale des différences, écoutez bien la suite, quand la règle fondamentale des différences est acceptée, et là, la problématique. Parce que nous n'acceptons pas toujours la différence. On normalise souvent les autres par rapport à ce qu'on est nous-mêmes, par rapport à notre histoire, par rapport à notre contexte, par rapport à notre culture, par rapport à tellement de choses. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, et l'esprit, il est grand, large. Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, le principe de l'accueil et de la tolérance. Ouais. Mes frères et sœurs, on n'accepte pas le mal et le péché. Mais mes frères et mes sœurs, comment dois-je les regarder? Dois-je regarder mon frère comme un gros péché? Parce que les problèmes de mon frère, faisons attention, ça peut nous arriver nous-mêmes, hein, avec des jugements péremptoires. Et là, Dieu nous donne des bonnes leçons quelquefois. Parce que la règle de l'évangile, c'est de nous aimer les uns les autres, et puis accessoirement, parce que Paul en parle, de nous supporter les uns les autres. Alors vous voyez qu'il y a quand même une petite nuance entre nous aimer et nous supporter. Mais néanmoins, nous touchons au corps de Christ à ce moment-là, et nous pouvons faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et est-ce que nous nous sommes posé la question, dans nos réactions, quelquefois épidermiques, ou spontanées, est-ce que en disant « Seigneur, tu dois être content de moi parce que je lui ai réglé son compte hein. » Je lui ai dit ces quatre vérités. Oui, mais la cinquième, elle était pour celui qui l'avait dit. Tu aimeras. Donc, principe de l'accueil et de la tolérance, c'est apprendre à vivre ensemble. Et on doit apprendre à vivre ensemble. Enfin, en Église. Bien sûr. Dans Romains chapitre 14, toute une étude très intéressante, qu'on verra peut-être un jour. Faites accueil à celui qui est faible. Et la faiblesse, comment vous la qualifiez? Parce qu'il est souffreteux, parce qu'il a un boitillement? Non, la faiblesse, elle est à la fois physique, elle est à la fois morale et elle est à la fois spirituelle. Accueillez-vous réciproquement, acceptez-vous, partagez, collaborez. Parce que si on fait le contraire, on tombe dans le monopole. J'ai la main sur tout. Et attention, rien ne se fait que par moi. Et ça engendre forcément de la jalousie. Ça engendre de l'égoïsme, des rivalités d'hommes et un esprit de parti. C'est exactement ce qui nous est dit dans les textes de Paul. Esprit de parti. On se dit, mais l'Église est malade, elle est malade, elle est malade. Mais elle est malade pourquoi? Parce que finalement, on n'a pas jugé dans le principe, dans l'essentiel, dans le fondamental. Aimez-vous, acceptez-vous, recevez-vous, et puis on va s'aider les uns les autres. Vous savez, nous, en tant que pasteurs, on est bien placés, hein, parce qu'on est souvent là sur le bord du chemin pour ramasser. Mais c'est notre rôle. Et il y a quelquefois des gens qui ont des descentes vertigineuses. Hein. Alors, écoutez, hein, moi, je ne conçois pas qu'on puisse voir quelqu'un descendre et lui mettre le pied sur la tête pour l'enfoncer encore un peu plus. Parce que moi, Dieu me demandera des comptes. Alors, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Hein. Ça, c'est sûr. Mais l'homme lui-même, il est respectable en soi. Vous voulez être respecté? Eh bien, respectons les autres. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ce que les autres voulaient que fasse pour vous, eh bien faites-le aussi pour eux. Et vous savez qui c'est qui l'a dit? Ce qui fait la valeur d'un croyant, ce n'est pas de briller seul dans son coin, mais l'apport de sa contribution personnelle pour être lumière avec les autres. Et remarquez que Jésus a dit « Tu es la lumière ». Non, il ne dit pas ça. Il dit « Vous êtes la lumière ». C'est au pluriel. Seigneur, qu'est-ce que tu dois être content? Je suis une étoile qui brille dans le firmament. Non, vous vous êtes jamais dit ça? Non, vous êtes plus modeste. Jésus nous dit « Vous êtes la lumière ». Tous ensemble. La complémentarité, c'est accepter que l'on a besoin de l'autre, que l'on a vraiment besoin de l'autre. Et quelquefois, l'autre, il mettre tout son cœur hein, pour nous amener à la sanctification. Je le répète, vous allez dire que je commence à vieillir, et c'est vrai. Mais les pierres, quand elles décrochent de la paroi rocheuse d'une montagne, elles sont très angulaires, elles sont aiguës et elles coupent. Mais quand elles se sont décrochées, là, il y a à peu près 1000 km, hein, si on parle de la Loire, vous avez vu comment les cailloux sont ronds à Saint-Nazaire? Elles se sont frottées tout le long du chemin, etc., etc. Et vous avez des belles des perles. Enfin, elles ne sont pas tous comme ça, mais quand même, dans l'ensemble. C'est bien arrondi et tout ça, parce que il y a eu une œuvre qui a été faite. Et cette friction, c'est une friction nécessaire pour arrondir les angles entre nous. Et puis, troisième point, Dieu est un Dieu d'équilibre. Il a créé aussi la spécificité. À chacun sa place, soit un ordre précis pour un rôle précis. Dans le corps, chaque cellule, chaque organe appartient à un groupe spécialisé. Il y a ceux du goût. Il y a ceux du toucher, de l'audition, de l'odorat, pour ne parler que des sens. Et il n'y a pas de confusion et d'interférence entre ma langue et puis mon oreille. Autrement, il y a vraiment un problème. Et il en est même dans le corps de Christ, versets 28 à 30, cela nous est rappelé. Car si quelqu'un vous dit... Non, c'est l'autre texte, excusez-moi, je suis sur l'autre page. 28 à 30, il est dit ceci, à un moment donné... Et Dieu a établi premièrement dans l'Église les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs. Ça, c'est le fonctionnement des dons, naturellement des ministères dons, mais ça va bien au-delà de tout cela. L'Église n'est pas uniforme, elle est variée, je le rappelle. Elle n'est pas individualiste, elle n'est pas pour autant désordonnée. Pourtant, il lui manque encore une vertu, c'est la solidarité. La diversité, la complémentarité et la solidarité. Je prends deux exemples rapides. Les globules blancs sont solidaires des autres cellules. Ce sont les soldats de l'organisme ayant le sens de l'appartenance au corps. Et ils ne laissent jamais un corps étranger s'infiltrer des microbes ou des virus. Ils défendent jusqu'au sacrifice, oui, je dis bien, jusqu'au sacrifice, afin que les autres cellules ne soient pas contaminées. Et il y a un rejet de tout ennemi, de même que les cellules étrangères. Oui, les rejets de greffe, par exemple, et toutes sortes de choses. Parce qu'il y a une identification, il y a une mémoire. Les cellules graisseuses, ce sont des magasins entrepôts, avons-nous dit tout à l'heure. En période d'abondance, elles regorgent de réserves. Nous sommes dans des pays de consommation. Et c'est vrai qu'il y a un problème. Et autant de disettes, elles déversent dans la circulation sanguine leurs trésors nourriciers, permettant ainsi aux autres cellules de subsister. Ça s'appelle de la solidarité. Dans le corps de Christ... doit se trouver le même phénomène. Solidarité par et dans l'amour fraternel. Être capable de repousser les éléments étrangers, comme les globules blancs, les faux frères. Et de partager ensemble les acquis spirituels ou encore mettre au service des autres les bénédictions que nous avons reçues. Dieu ne nous bénit pas pour nous-mêmes, il nous bénit pour que nous soyons en bénédiction aux autres, frères et sœurs. C'est un enrichissement des autres. C'est le but. Voilà le cadre du bon fonctionnement, et je termine. Le cadre du bon fonctionnement, il existe et il arrive parfois à un dérèglement que nous, les humains, nous appelons la maladie. L'accident, la maladie. Certaines cellules préfèrent vivre dans le corps et bénéficier de ses bienfaits tout en gardant une totale indépendance. L'Église, je le rappelle, c'est un corps. Ce sont les cellules parasites ou, médicalement, les cellules cancéreuses. Vous connaissez ce fléau de notre temps et de tous les temps, parce que c'est l'anarchie à ce moment-là. Quand on parle de cancer, on parle de rébellion. Elles ne fonctionnent plus avec le reste du corps. Elles vont prendre de l'extension pour dévorer, pour détruire et faire mourir les autres cellules. Et puis après, naturellement, on connaît la suite. Ces cellules rebelles ne tiennent aucun compte des autres cellules. Elles fonctionnent anarchiquement. Ça s'en va dans tous les sens. Et elles prolifèrent sans contrôle, appelées les métastases. Elles ne répondent plus à l'impératif de l'unité. Et il y a menace de mort. Le cancer du peuple de Dieu existe. C'est pire que tout le reste. Dans Ésaïe, sous l'inspiration du Seigneur, le prophète dit ceci. Ésaïe, chapitre 1er, ça commence par là, hein, le grand livre d'Ésaïe, verset 5. « Vous multipliez vos révoltes. La tête est entièrement malade. Et tout le cœur, le corps est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. » Voilà le diagnostic du divin médecin. Nous avons besoin de travailler pour que nous ayons une église unie, saine, devant Dieu et devant les hommes. C'est un témoignage absolu. Et là, nous devons travailler tous ensemble, dans nos différences, dans la complémentarité, dans la main d'association. Alors, c'est vrai que nous avons chacun nos soucis, nos problèmes, nos aspirations, nos rêves, nous avons nos idéaux, nous avons ceci et cela. Mes frères et sœurs, on sert le Seigneur, hein, attention. Hein. Faisons attention de ne pas nous servir nous-mêmes. Et il y a des choses sur lesquelles nous devons faire des sacrifices. Non pas en raison de moi-même, mais en raison des autres. Par amour pour les autres. Par amour pour les autres. C'est le cancer de l'Église. Et le cancer de l'Église, ça s'appelle d'un mot terrible, ça s'appelle la division. Cancer est synonyme de souffrance. C'est une maladie terrible, une maladie qui fait souffrir. Alors il y a des palliatifs, il y a des cures d'accompagnement, il y a toutes sortes de choses. Mais attention, qu'est-ce que nous avons, nous? Moi, j'ai pas de morphine. Hein. Les symptômes et les manifestations de cette maladie. Et les symptômes et les manifestations de cette maladie, c'est là où nous devons bien ouvrir nos oreilles. C'est le mépris de la communion fraternelle. Moi, je ne vais plus à l'église parce que ça ne m'intéresse plus. Ça fait 30 ans que je viens, et puis bon, aujourd'hui, maintenant, je sais tout. Hein. Mais bien sûr que je sais tout. C'est également le brisement de l'esprit de solidarité. Nous travaillons ensemble, mes frères et sœurs. Nous travaillons, et je bénis le Seigneur de ce que nous travaillons ensemble ici, à Redon, à Saint-Nazaire. Je remercie le Seigneur et je prie pour mes frères qui participent avec moi à la prédication. Sincère, hein? Je bénis le Seigneur de ce qu'il y a une équipe qui fait le ménage. Je bénis le Seigneur que quand j'ai besoin de ceci et cela pour m'aider dans ma tâche, eh bien il y a des mains qui se portent volontaires et qui me disent « ben là on va t'aider ». Parce que moi je ne sais pas tout faire, et il y a bien des choses que je ne sais pas faire et que je ne pourrais pas faire. Et si je les faisais, je les ferais mal, alors je préfère les laisser aux autres qui savent le faire. Il y a la désobéissance au regard de l'ordre établi pour l'ensemble. Nous ne sommes pas des électrons libres. Je dois tenir compte de mon frère et de ma sœur dans l'Église. Parce qu'il y a un ordre établi. Ce n'est pas l'ordre pastoral, ce n'est pas un ordre clérical, ce n'est pas un ordre ecclésiastique. C'est l'ordre de l'Esprit qui nous fait conduire, qui nous conduit, qui conduit dans notre cœur à bien comprendre le message du Seigneur, parce que l'Esprit nous dit très bien ce qu'il faut faire. Pas de problème. Autrement, je ne peux pas l'entendre. C'est la folie de l'individualisme, de vouloir faire cavalier seul. Et c'est vrai que le corps de Christ, quand on le voit, il y a des petits groupuscules de droite et de gauche. Parce que certains ont dit, oh, c'est nul, pasteur, c'est rien. Enfin, bon, c'est ça. Et puis, moi, vous allez voir, je vais amener le réveil. Il va y avoir l'onction du Saint-Esprit, naturellement, il n'y a que moi qui peux l'avoir. À Alors on morcelle, et puis dans cela, c'est que c'est terrible parce qu'il y a des faibles qui sont emportés, des nouveaux convertis qui sont emportés. Et là, on va les faire mourir parce qu'on les a arrachés du berceau spirituel. Ah ouais, bien sûr, ailleurs, c'est peut-être un peu, l'herbe est peut-être plus verte. Mais vous savez, ce genre d'aventure, ça ne dure jamais très longtemps. Et on s'aperçoit que de l'autre côté, avec ce zèle qui est un zèle sans intelligence et un zèle qui n'est pas un zèle spirituel, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui sont restés sur le bord du chemin et qui aujourd'hui ne disent « ne me parlez plus de Dieu ». Jésus a averti son Église qu'il ne craignait pour elle ni les chocs, ni les heurts, ni les coups de l'extérieur. De l'extérieur, il a dit « les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre mon Église ». Mais, par contre, il a formulé la solennelle mise en garde contre les désunions du dedans, le cancer de ses membres, la division. Conclusion. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Alors ça, on l'a compris, on dit merci Seigneur parce que c'est ce que nous voulons. Nous le désirons Seigneur et nous allons travailler à cela. Par la grâce de Dieu, on a travaillé ensemble et je bénis Dieu que il y a des choses qui se sont faites ici. Mais on va continuer. Je voudrais vous dire, mes frères, que je ne serai pas toujours avec vous. C'est vrai, il faut que vous prépariez à cela. Cet après-midi, je serai là encore. Et puis dimanche prochain. Et puis encore, encore, encore un petit peu. Mais il faut que vous puissiez vous préparer. Préparer, parce que bon, c'est comme ça. Et puis préparer aussi à recevoir ceux qui viendront après moi. Ceux qui viendront à ma suite. Et qui seront certainement différents, et heureusement. Parce que c'est bien que ce soit comme ça. L'unité parfaite dans la prière sacerdotale. Qu'ils soient un comme nous, nous sommes un, dit Jésus, moi et eux et toi en moi. Oui, Seigneur, tes œuvres sont admirables. Tes œuvres sont admirables. Elles sont admirables par la diversité, elles sont admirables par la complémentarité, par la solidarité, la spécificité. Est-ce que ce n'est pas cette harmonie que le Seigneur veut voir dans son Église ? Alors que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce. Merci Jésus. On va prier quelques instants. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta grâce. Tu bénis mes frères et mes sœurs. Tu nous donnes une raison saine. Tu nous donnes un cœur pur. Tu nous donnes une motivation, Seigneur, où nous nous donnons les uns et les autres la main d'association d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même âme, dans un même esprit, pour la gloire de Jésus. Amen. Amen.